Il y a quelques années, je me suis trouvé entre deux amis algériens qui se sont mis à jouer le bendir, sorte de tambour traditionnel. Après quelques minutes, j'ai senti en moi-même quelque chose d'étrange et de très prenant. J'ai senti mon état de conscience se modifier. Nous allons voyager au Burkina Faso, au Maroc chez les soufis Hamatcha, mais aussi à Bruxelles dans les confréries Bouchichi et Gnawa, sur les traces des djinns, les génies et des maux dont ils sont la cause. Nous allons approcher les rituels de transe qui permettent de négocier avec les génies la guérison, et ce, lors de cérémonies rituelles appelées lila, ce qui veut dire nuit en arabe.
Une fois, je me souviens, je n'oublierai jamais ça d'ailleurs, que mon père était gravement malade et le médecin il l'a donné comme mort. Donc il lui a dit peut-être il vous reste, je ne sais pas, quelques jours, quelques semaines. Mais un jour, il y avait cette fête, justement, il y avait la fête. Alors, il a entendu, parce qu'on ne voulait pas lui dire, mais je ne sais pas, quelqu'un lui a sonné ça dans la tête, il lui a chuchoté ça dans la tête. Il a dit, mais je vais partir. Il dit, mais non, écoute, c'est dans le temps que tu vas mourir, tu vas aller là-bas. Il a dit, non, moi, je vais y aller, s'il faut mourir, je préfère autant mourir à la main. Mais elle est partie, donc on l'a suivie avec mes frères, dire, voilà, on attendait l'heure où on l'a ramassée. Ben, à un moment donné, j'étais avec un cousin, et je le voyais au milieu de la foule et qui dansait, mon père.
Alors, il avait quel âge?
Il avait 80 ans, à peu près. Il dansait, mais il dansait comme un, je te jure, comme un gamin. Il sautait, etc. C'est incroyable. Parce que maintenant, comme ça, je n'arrive toujours pas à croire. Il a dansé pendant des heures et des gens rentrent au milieu avec les bendirs et le feu, etc. Et la nuit, on fait ça la nuit, hein, jusque l'aube. Et là, tout le monde, jusqu'au moment où les gens tombent carrément par terre, souvent on croit qu'ils ne vont plus jamais se réveiller. Et ben mon père, il a dansé les 2-3 heures. Et puis le lendemain, on l'a amené, donc il a dormi, et puis il est resté presque dans le coma pendant 2-3 semaines. Et je crois que c'est ça qui l'a sauvé, parce que à partir de là, quand il a récupéré, il est revenu en vie comme le plus normalement du monde, donc il n'est pas mort. Et le médecin, quand il est venu à la maison, il a entendu ça, il est venu. Et il a dit ça, et moi je peux croire maintenant que... Que rester à la maison, c'est mourir, et bouger, c'est pour ne pas mourir.
La majorité des musulmans qui pensent, qui adhèrent à ce système, qui ne sont pas touchés par les virus modernistes qui font dire que tout ça c'est des superstitions, etc., parce qu'il y a des musulmans aussi qui pensent que c'est des superstitions, hein, la majorité pense, ça existe, et nous on le sait, donc on peut faire avec. Mais ça existe aussi ailleurs, c'est universel, disons, hein. Simplement, en Europe, ils ne le savent pas, quoi. Et donc, ils souffrent des effets, y compris négatifs, de leur mauvais rapport avec la possession, mais seulement, comme ils ne l'identifient pas, ils ne savent même pas que ça existe.
Tout d'un coup, on a vu que les gens aimaient bien ça, et que dans le quartier, ça manquait, et puis on a décidé de créer une association. Les jeunes, surtout, bon, eux, ils connaissent vraiment pas cette culture gnawa. On a essayé de créer l'association justement pour promouvoir ça, tous ces jeunes-là, leur apprendre l'historique, leur montrer ce que c'est la tradition gnawa.
Ici à Bruxelles, il y a des jeunes, des gens d'origine maghrébine, disons pour la plupart, qui, bien qu'étant nés à Saint-Josse, ayant été à l'école communale numéro 15, et n'ayant éventuellement jamais voyagé au Maroc, peuvent manifester des troubles sur un mode traditionnel, quoi. C'est-à-dire, des enfants manifestent des signes de possession alors qu'ils ne savent même pas très bien ce que c'est un djinn, quoi. Mais ils ont, je ne sais pas comment se fait la transmission, j'en sais rien, hein, mais c'est un mystère, disons, mais par contre, qu'il y a une transmission qui se fait, hein, y compris pour les troisièmes générations, et que donc il y a des situations où des gens souffrent de troubles qui vont être interprétés en termes psychiatriques occidentaux, comme schizophrénie, multiplication de la division de la personnalité, etc. Et qui donc vont être traités par antidélirants, Aldol et autres camisoles chimiques, sans aucun profit pour le patient, quoi. Hein, et que donc il y a un vrai problème pour l'accès aux soins de type traditionnel pour des maladies de type traditionnel, voilà.
Il y a, tu sais, ça fait 3 ans que je n'ai pas fait ça. Je sens toujours, je ne sais pas, malade à l'intérieur. Je ne sais pas mal, je sens mal de rien du tout. Même avant, je dis, va chez le médecin. Je dis, je ne sens pas le mal. J'ai pas mal de cœur, j'ai mal de foie.
Est-ce que les traitements, les systèmes thérapeutiques traditionnels au Maroc ont un sens pour au moins des personnes d'origine marocaine ici en Belgique, quoi? Est-ce que ce que font certains à l'occasion des vacances, c'est-à-dire consulter des guérisseurs sur place, etc., est-ce que ça, c'est une pratique qu'on peut prendre au sérieux, qu'on pourrait même encourager ?
C'est même pas une semaine, j'ai dit à ma femme, tu sais, il faut rester sage avec ton fils, il faut servir ton fils. Je dis, pourquoi tu dis ça ? J'ai dit, je sens que je vais mourir. Pourquoi ? Tu sens quelque chose à l'intérieur ? Je ne sais pas. Je sens que j'ai besoin de quelque chose. Il dit comme quoi ? Tu as besoin de quelque chose pour manger de... Non, non, ce n'est pas pour manger, ce n'est pas pour habiller, ce n'est pas pour l'argent, c'est pas... J'ai besoin de... Allez, à l'intérieur, je sens... Même maintenant, je suis avec vous, je sens pas... À l'intérieur, j'ai besoin, quand je trouve, par exemple, une soirée de Essaouar, n'importe quelle ici, j'y vais y aller directement. Je vais aller. J'ai dansé jusqu'à vider à l'intérieur. Qu'est-ce que je sens à l'intérieur?
C'est dans l'agenda des gens. Hein. Donc, c'est programmé dans la tête. C'est pour ça que je dis que c'est là-dedans que ça se travaille. C'est dans le cerveau des gens que ça se travaille. Donc, le mec, il est là, il descend pendant les vacances au Maroc, il fait une lila. Pendant toute l'année, il est bien. Et quand il descend, il refait sa lila. Et pour lui, il se repose à chaque fois.
Franchement, moi, je sens cette musique comme quand je danse avec cette musique, je sens à la fin, pas fatigué, mais je sens à l'intérieur, je sens très bien, à l'aise.
Et tu fais ça combien de fois par...
Chaque année, une fois.
Il y a des Européens, je crois Américains ou Français, ben, chaque année ils descendent au Maroc pour faire une lila. Chaque année. Ils doivent la faire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont trouvé... Ils ont trouvé du repos là-dedans, leur médicament en fait. Ils l'ont trouvé là-dedans, qu'ils n'avaient pas trouvé ailleurs.
Mais ce genre de maladie, on peut pas aller à l'hôpital pour soigner ce genre de trucs. Dès qu'il part à l'hôpital avec ce genre de maladie, il ne peut jamais guérir.
Bon, il faut prendre le cas de quelqu'un qui, tout à coup, se trouve souffrir de quelque chose, hein, de plus ou moins vague, enfin, sur lequel on n'a pas encore mis de nom, disons, hein, sur lequel on n'a pas encore mis de diagnostic précis. Bon. Cette personne, elle-même, va se poser la question de savoir de quoi relève son trouble, quoi, hein, de quel type de trouble il s'agit. Bon. Et puis il va éventuellement en parler à sa famille, ou ça va se voir, ou enfin, ça va faire le tour des proches, de la famille, des proches, etc. Et il y a une espèce de savoir populaire au Maroc qui distingue les maladies pour l'hôpital des maladies pour le guérisseur. Quoi, hein. Et il ne faut pas les prendre pour des idiots, quand ils se cassent une jambe, ils ont une angine ou n'importe quoi, ils vont à l'hôpital. Hein. mais il y a d'autres troubles où on dit « Ah, ça ne relève pas de l'hôpital, et ça relève plutôt... » Ça peut être 3 catégories, hein, de mauvais œil, l'ensorcellement ou la possession. Hein. C'est les 3 grandes catégories de ce que j'appelle personnellement les troubles traditionnels.
j'ai expliqué tout à l'heure, un Belge peut avoir les mêmes soucis qu'un Marocain qui vient de la Lila. Il peut être aussi nerveux, plein de soucis dans sa tête, pas tranquille. Il peut venir là et être à l'aise. On a eu le cas avec une Turque où elle était juste assise sur une chaise, où on jouait et elle a commencé à pleurer. Pleurer des larmes, je ne savais pas pourquoi. Et puis tout d'un coup, elle est partie. Elle a commencé à danser, à soulager. Au départ, elle était assise, elle pleurait. Elle écoutait la musique, elle pleurait des larmes. Puis paf, elle est partie.
Il y a des maladies, par exemple, j'ai dit que tu te trouves, tu te lèves le matin, tu as plein de boutons, tu vois, ce genre de maladies, ils vont voir charlatan, il va te dire non, c'est pas une maladie où il faut aller à l'hôpital, et il faut aller faire la musique, il faut chanter, il faut chercher cette plante là et ça va guérir. Et ça, il y en a toujours, mais c'est pas de maladie le paludisme et tout qu'on soigne avec cette autre maladie qui est humain, ça on peut soigner vite. Puis c'est des maladies, il y a des maladies aussi qu'on t'a jeté des sorts, on t'a fait des choses mal, les génies t'a attrapé, les génies veulent te faire du mal, les ancêtres ils veulent te faire. Ce genre de maladies, on les soigne, ça c'est sûr, avec la chanson, avec la musique.
Parce que les gens vont dans les hôpitaux et tout, ils trouvent qu'il n'y a pas vraiment de médicaments et pas vraiment de solution. Où il leur dit, ouais, il faut aller voir les Gnawa, il faut aller voir les Hmacha, il faut aller voir ça. Oui. Puis ils essayent de n'importe quel moyen de guérir. Et puis si ça ne va pas avec Gnawa, et puis ils changent, ils vont chez Hmacha, ils vont chez Isawa, il y a aussi des autres musiciens, ça dépend. Il y a des gens qui vont directement chez les Gnawa, parce qu'ils se sentent à malaise, ils ne sont pas bien, ils sont pensifs, ou il y a quelque chose qui travaille dans la tête, ou bien il y a des gens qui ont des douleurs, par exemple. La douleur, il va à l'hôpital. Et puis la douleur n'est pas guérie, et puis... ils vont voir quelqu'un d'autre.
Consiste effectivement à provoquer la crise de possession pour entrer en relation, en négociation avec les génies pour obtenir d'eux qu'ils cessent de tourmenter les personnes qu'ils habitent. On soigne plus spécifiquement par ces techniques, y compris musicales, les troubles qui sont mis en relation avec la possession. Donc l'existence des génies est affirmée par le Coran, est acceptée par tout musulman qui se respecte. L'idée que ces entités invisibles sont susceptibles d'habiter des êtres humains est également entièrement partagée, y compris à l'époque du prophète. C'était reconnu qu'il y avait des êtres humains qui étaient habités par les génies. Et cette cohabitation se fait souvent, difficilement, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des tas de troubles associés à la possession, parce qu'une bonne partie des manifestations sont purement physiques, c'est paralysie, beaucoup de paralysie, et des paralysies très, très caractéristiques. On reconnaît une paralysie provoquée par un génie, et bon, le médecin aussi va voir à garantir l'absence de substrat organique, disons, à cette paralysie. Et en plus, c'est pas une espèce de tension, de torsion comme ça, des membres vers l'arrière, des orteils ou des doigts, par exemple, qui est impossible à faire de manière volontaire, mais qui est vraiment caractéristique des paralysies provoquées par les génies. Yeah. femme, la femme d'un journaliste qui travaille dans un grand journal marocain, qui est un grand intellectuel d'ailleurs, qui a été aveugle pendant 2 ans, alors qu'il n'y avait aucune atteinte physique, disons. Elle était aveugle pendant 2 ans parce que elle était habitée par un génie. Alors il y a la stérilité, ça c'est extrêmement fréquent. Il y a des mutiques aussi, des gens qui sont muets, qui ne savent plus parler. Il y a le plus courant, le plus banal, c'est ce qu'on appelle le wes-wes, c'est-à-dire le on peut traduire par angoisse, un peu une espèce de malaise, comme ça, de l'impression de ne pas se sentir bien. Ça, c'est le plus courant comme manifestation.
Il y a, je dirais, une chambre réservée pour ça, hein, parce qu'en hiver, il fait très froid en cabinet. Et ça s'organise autour du mois d'octobre, comme ça, et le mois d'octobre dans la forêt. Il fait très froid dehors, donc on organise ça dans une grande salle, ouverte comme ça, mais les gens se rassemblent pour danser. Si je peux dire danser, parce que c'est vraiment se défouler, s'éclater, pas danser vraiment. Ouais, ouais, c'est se déchaîner. Et tu vois, je t'ai dit, j'ai vu mon père danser comme ça, je n'ai jamais pensé que mon père, à son âge et sa maladie, il a vécu 6 ans après ou 7 ans. Ouais.
Ouais, ouais. Quand il est arrivé au village, bon, comme elle était au village, elle est tombée au village, au milieu du village. Et puis ils sont venus la voir, on dit, ah non, c'est les génies et tout.
Mais ça,
non, ça l'a pris un coup. Ça l'a pris un coup. Depuis ça, ça l'a suivi partout. Grâce à ça, elle n'a pas eu des enfants. Parce que c'est léger à cause de ça, parce que les génies étaient amoureux d'elle. Donc, si son mari, paraît-il, si son mari était avec elle, les génies étaient là. Donc, c'est comme deux hommes ne peuvent pas faire le cours d'une femme. Il faut que l'autre, il laisse à l'autre. Quoi.
C'est le muhadra qu'il faut mettre au centre de l'idée de thérapie en lien avec la musique. Mais le muhadra peut avoir 2 sens au Maroc très différents. Parce que hadra, ça veut dire présence. Et dans les confréries mystiques, disons, élevées, y a... Donc la pratique rituelle la plus pratiquée, c'est le dhikr, qui est la remémoration du nom de Dieu, ou des noms, des différents noms de Dieu. Que même le fait de réciter à voix basse, ou même de lire le Coran, par exemple, à voix basse, sans en comprendre éventuellement la signification, a un effet sur la modulation du souffle, de la respiration, et que c'est bien ça qui est au noyau même de ce que c'est le rapport à la musique dans l'islam en général, quoi, hein, c'est une modulation du souffle, quoi, hein. À la fin, généralement, des cérémonies d'invocation, etc., il y a ce qu'on appelle le sama, c'est-à-dire la traduction littérale, c'est audition. Audition spirituelle, concert spirituel, on dit souvent, on traduit souvent par concert spirituel, qui sont en fait des poésies mystiques avec des invocations, des extraits du Coran, etc., qui sont chantées, souvent a cappella. Et alors cette musique induit très régulièrement des états, ce qu'on appelle des états, qui sont des états qu'on peut mettre derrière l'étiquette fourre-tout et qui ne veut pas dire grand-chose, de transe, et qui sont effectivement dans ces confréries de ce type-là, sont des transes qui portent en premier lieu sur le souffle, c'est-à-dire que la transe caractéristique, l'extase mystique caractéristique qui est suscité, entraîné par le concert spirituel, c'est une sorte de tout à coup le souffle devient rauque, comme ça, devient cadencé, et les personnes qui sont dans cet état sont entraînées à dire hi, qui veut dire le vivant, Dieu vivant. C'est un état tout à fait différent des états habituels, parce que ce souffle, cette respiration, ça se contrôle pas, hein, on peut pas le faire volontairement. Et une fois qu'on est pris dedans, c'est très difficile de l'arrêter semblerait quelque chose d'assez inimaginable. Et donc là, on emploie le muhadra, hein, pour dire présence, et présence en fait du souffle divin parmi les cérémoniants, pour dire. Hein. Bon, ça c'est la première grande catégorie. Et on peut la mettre en relation avec la question de la guérison, ou du traitement, ou du caractère thérapeutique de cette musique, mais dans un sens très général. C'est-à-dire que les disciples soufis se considèrent tous comme malades, et c'est Dieu qui guérit.
Et donc, effectivement, ces extases mystiques, on peut dire, sont des dons, des grâces divines, des grâces divines qui font un bien fou, évidemment. C'est-à-dire qu'après, on se sent extrêmement bien. Il y a un bonheur rayonnant, absolu, complet, qui est produit par ce genre de... l'État. Mais enfin, c'est vrai que à la fin de ces séances d'invocation, il y a régulièrement ce type de chant mystique, et ce type de chant provoque des états qui sont des états de transe mystique, vraiment centrés autour du souffle, de la manière dont tout à coup la respiration se met à fonctionner vraiment autrement, et on est entraîné à crier « hi hi ». Il est vivant, le souffle devient ça, devient une tension vers ce cri, hi, il est vivant. Et alors l'autre type de d'état, c'est, on peut dire, il y a l'effet d'entraînement par le groupe, quoi, hein, ce qui est relativement clair, c'est-à-dire que là, donc les chanteurs se mettent à chanter à la fin de la soirée, et puis assez vite, il y a certains des frères qui entrent en état d'extase mystique, on peut dire, et qui se mettent donc à crier hi hi en sautant à pieds joints, hein, avec des formules plus ou moins dansées, plus ou moins spontanées. Quoi, disons. Et quand un assez grand nombre de frères sont dans cet état-là, l'ensemble des frères se lève et entoure ceux qui sont dans l'état, qui font un petit cercle au centre. Bon. Et généralement, au bout d'un certain temps, je sens qu'on me pousse très doucement dans le dos. C'est-à-dire que des frères ont vu que j'avais changé d'état sans même que moi je m'en suis vraiment aperçu. Et donc me conduisent en fait dans le cercle central. Et alors à ce moment-là, je rentre dans le cercle et je saute et... avec les autres.
Oh.
impressionnant parce qu'à un moment donné, le chant disparaît. C'est-à-dire que les chanteurs s'arrêtent de chanter et on n'entend plus que le bruit de la transe, on peut dire, le bruit de l'extase, le son de l'extase, le souffle de l'extase qui traverse les frères. C'est des états assez intenses, hein, qui sont même quelquefois à la limite de la souffrance. C'est une exultation presque douloureuse, tellement elle est intense. Je peux le vivre sur deux modes différents. Le mode qui est le plus intense, mais le plus rare, c'est quand ça me prend vraiment. Ça me prend vraiment, et indépendamment même de ce qui se passe pour les autres. C'est-à-dire que ça peut se passer même en dehors du chant. Ça peut se passer pendant des discours, pendant des invocations non chantées, etc. Tout à coup, il y a une espèce d'émotion qui monte, hein, relativement incontrôlable. Quelquefois des larmes, on se met à pleurer. Et alors, il y a effectivement cette espèce de respiration caractéristique et qui va très profond dans les poumons, qui vous prend.
Quand on fait la nuit, ça commence à aller. De 10h du soir jusqu'à 5h du matin, il y a presque deux chansons ou trois chansons dans cette musique que j'aime bien, que je danse avec elle. C'est directement qui commence, directement, je trouve à l'intérieur avec les gens, je danse jusqu'à la fin. Et je fais, qu'est-ce qui se passe après? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. J'étais vraiment tombé dans le pomme, boum. Tout le monde est dit, c'est fini, il a bien amusé avec cette musique. Et à la fin, je sens bien.
Donc en fait, tu prépares le rythme, tu danses de plus en plus.
Oui,
et puis à un moment donné, tu perds.
Oui, je perds les mémoires directement. Je danse, je pleure. J'ai pleuré, j'ai vraiment pleuré.
Il y a des images qui viennent?
Non, pas d'images.
Des sensations?
Je sens à l'intérieur, j'ai besoin de pleurer. Je pense en même temps, moi je danse, je pense plein de choses. Je pense le temps qu'on va mourir, est-ce que je vais parler le paradis ou non, est-ce que j'ai fait quelque chose de bien avec les gens, est-ce que j'ai fait mal avec quelqu'un, est-ce que j'ai pensé plein de choses dans ma tête et directement j'ai commencé à pleurer, danser. Et à la fin, les gens qui sont besoin de quelque chose, par exemple, quelqu'un. Il n'a pas de chance au travail, avec sa femme. Il dit, moi, j'ai besoin, tu demandes à Allah qu'il donne quelque chose. Le temps, moi, que j'y suis, vraiment. Alors, directement, je suis comme ça, les yeux fermés. Et je prends de la main de la personne et j'y demande à Allah que celui-là, il a besoin de ça, il a besoin de ça. Il faut aider, il faut donner quelque chose pour lui.
Oui, oui, c'est très intense. J'étais à mille lieues d'imaginer que les trucs comme ça se passaient à Allah comme tous les samedis, quoi. Je crois que la plupart des Bruxellois s'y savaient. C'est très étonné. Et donc après le repas, 1h30, 2h du matin, commence le Sama. Et donc le concert spirituel, à proprement parler, là. Et ça dure... En général, jusque 4-5 heures, quoi. Les grandes nuits, jusque 6 heures, mais d'habitude, allez, disons 4 heures du matin, d'habitude, on s'arrête de chanter. Et alors, il y a un dernier thé, quoi, les biscuits, et puis on rentre chez soi. Donc, ça commence à 7h30, ça se termine vers 5 heures du matin, toutes les semaines.
Peut-être des fois tu tombes sur les gens qui chantent. C'est pas ta faute, c'est la chanson qu'il a laissée. Moi qui j'ai fait comme ça, j'ai bougé jusqu'à le temps que j'ai tombé, par exemple, soit à côté de l'orchestre, soit très loin, soit à côté de la porte, soit à côté de la chambre. Peut-être que j'ai tombé sur une chaise, je sais pas. Et toute la famille qui danse comme ça, parce qu'il y a des femmes qui commence à danser, à la fin, boum, ça tombe. Des fois, il tombe comme ça, son doigt, derrière, devant. C'est pas une...
Et on peut se blesser en tombant?
Jamais ça arrive comme ça, un accident, quelqu'un qui tombe. Comme on le dit, c'est Allah qui le protège.
Dans les confréries populaires d'habitude, la cérémonie commence par une partie strictement mystique qui ne s'adresse pas au génie, avec des invocations de Dieu, des invocations de ses prophètes et de ses saints, qui ont entre autres pour fonction, disons dans le rituel à but thérapeutique, de se protéger, c'est-à-dire de s'adosser, le mot en arabe traduit en français dit s'adosser au saint, pour se garantir qu'on est bien du côté du bien, quoi, hein, parce qu'on va entrer en relation avec des forces obscures qui sont moralement ambivalentes, qui sont dangereuses, avec lesquelles il est possible de négocier, mais en restant prudent que sont les génies, ben, il faut prendre toutes ces précautions, quoi, hein, il faut bien se garantir qu'on est du côté du bien pour ne pas, parce qu'en plus dans les génies, il y en a qui sont pas musulmans, qui sont mauvais, qui sont méchants, enfin, qui sont pas musulmans ou juifs ou chrétiens, qui sont les trois catégories de génies avec lesquelles il est possible de traiter, disons, mais avec ceux qui ne sont ni juifs, ni chrétiens, ni musulmans, il est dangereux de s'en approcher. Et puis, on passe à la deuxième partie où, effectivement, là, on joue les airs qui correspondent spécifiquement à chaque fois à un génie.
Les génies, nous, on ne les voit pas. Mais eux, ils nous voient, ils sont au milieu de nous. Ils discutent tout ce qu'on fait, ils sont là. Ils nous écoutent. Ouais. Et puis, eux, ils peuvent durer 1000 ans, paraît-il. Hein? Et ils ne vieillent pas.
J'ai un sœur qui danse jusqu'à sa bouche qui transforme comme ça.
Qui se tord.
Oui. Sa bouche, il fait comme ça. Hein. Il parle comme ça. Et c'est pas des blagues, c'est pas des signes. Mm-hmm. C'est elle qui... Ça vient tout seul comme ça.
Et comment ça s'est arrangé alors avec ta soeur?
Par l'Ila des Sawa. Il a dansé jusqu'à le temps qu'il a tombé. Mais
il
danse pas n'importe quelle chanson. Il y a une chanson qu'elle aime bien dans toute l'Ila des Sawa. Il y a des chansons qui sont... Ça touche à l'intérieur. Moi, je sens qu'elle me touche à l'intérieur. Qui commence et chante cette chanson, alors directement, je suis à l'intérieur avec tout le monde. Je danse jusqu'à le temps qu'ils sont finis la chanson. Alors, je tombe par terre.
Tu tombes à la fin?
Ah, je tombe à la fin.
Et tu tombes, tu es inconscient?
Je tombe, je sens vraiment dans... Vraiment, je rêve, je sais pas, je sens à l'intérieur que, comme je suis. Je courir vraiment 150 km à pied, jusqu'à vraiment, je sens à l'intérieur fatigué, KO.
L'extase correspond à la sensation d'être. De goûter une saveur du souffle divin. Et donc on dit Hadra pour présence, mais c'est présence mystique, on peut dire. Alors que ce qu'on va entendre maintenant, ça, c'est en fait des musiques spécifiques de génie dans les confréries populaires pendant les cérémonies d'apaisement avec les génies. Les cris, c'est les gens qui rentrent dans l'état. Pour certains génies, mais je ne vois pas si j'ai ici, c'est des hurlements, carrément, c'est assez impressionnant, parce que tout à coup, on entend un cri déchirant, quoi. Et alors, c'est une femme qui était assise là, immobile, et qui tout à coup a été prise par le génie, qui hurle, alors elle se lève, elle se jette devant les musiciens, et puis elle commence à entrer en transe, elle se met à danser, quoi. Enfin, le génie se met à danser en elle. C'est-à-dire que quand quelqu'un est en transe de possession, intense, ils sont en train de danser, on ne peut pas les laisser tomber comme ça. Les musiciens sont obligés de jouer jusqu'à ce que le génie soit satisfait, c'est-à-dire jusqu'à ce que la personne tombe dans la danse. Ce qu'on appelle ça tomber dans la danse, c'est-à-dire tomber par terre, effectivement. Ici, il m'est arrivé des situations où, là, oui, j'ai eu peur, vraiment, parce que j'ai ressenti physiquement des choses pas tellement agréables, d'ailleurs, et surtout parce que j'étais avec des gens que j'avais entraînés là-dedans et qui sont entrés dans des espèces d'états de crise de possession
assez violent, disons, et où je me sentais totalement incapable de faire quoi que ce soit. Et ça, c'est beaucoup plus paniquant, parce que quand je suis là-bas, je sais qu'ils savent ce qu'il faut faire. Quand il arrive quelque chose de désagréable, ils savent ce qu'il faut faire, quoi. Donc je me sens en sécurité totale. Et donc là c'est un... je me suis rendu compte que c'était un truc... En fait, il ne faut pas rigoler, quoi. Il ne faut pas faire n'importe quoi. J'ai beau être rationaliste de formation, là, j'ai pu voir sur le tas, quoi, qu'il y avait vraiment des trucs qui pouvaient se passer. Quand il y a une crise de possession qu'on ne sait pas comment la calmer, on est vraiment emmerdé, hein, parce que...
À un moment, il tombe comme si on l'avait tué. Il s'évanouit. Il roule comme ça par terre, quoi. Il roule et puis ça... Il bave beaucoup, tu vois, quoi. Mais dès que c'est fini, tu vois plus aucun salive dans sa bouche, quoi.
Et
lui,
lui,
il se sent bien, ouais, parce que dès qu'il finit ça, il va se laver. Il se sent fort, il se sent guéri, il se sent... Il y a plein de choses qui passent. Moi, je ne l'ai jamais vécu, hein, mais quand tu vois ça, tu te dis... mais si moi, j'avais fait ça, j'allais être malade le lendemain, parce qu'il tombe par terre, il se cogne contre les murs. Tu vois quoi? Les gens, ils essayent de le prendre, mais tu vas voir, il y a des jeunes qui ont la force, qui les tient, mais ils bougent avec eux, quoi. C'est comme s'il avait une force de 20 personnes.
Jamais de ma vie, je n'ai dansé comme ça, c'est-à-dire en ayant vraiment la sensation physique que c'est quelqu'un d'autre qui danse en moi, quoi. Hein? Que c'est plus moi qui danse, que c'est vraiment... Et ça, c'est très étrange, hein, comme sensation, parce qu'on peut... Ce que l'ambassade appelle la dissociation, on peut garder sa lucidité, on garde sa lucidité, enfin, sauf, quoi, il y a des états de transe qui sont tellement profonds que après il y a amnésie, etc., hein, les gens oublient ce qui s'est passé, ils se rappellent plus ce qu'ils ont fait. Mais moi, ça ne m'est jamais arrivé, la plupart du temps, on se rappelle quand même relativement bien. En plus, on est conscient, au moment même où on est en transe, on le sait, hein, et on peut s'observer, quoi, hein, et c'est très étrange, parce qu'effectivement, on se met à avoir des gestes qu'on a vus d'autres avoir quand ils étaient en transe sur le même air, avec le même génie, quoi. Et les génies sont considérés comme aimants. Ils sont invisibles en général, mais ils en souffrent un petit peu d'être invisibles en permanence. Et en fait, quand ils ont l'occasion comme ça de danser, ils ne sont plus invisibles, ils deviennent vraiment visibles. Leur première visibilité, parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui rentrent dans ce genre d'état, et donc la première chose qu'elles font quand elles entrent dans ce genre d'état, c'est arracher leur voile et libérer leur chevelure. Et alors, le mouvement même de la chevelure, qui est un mouvement qui change de djinn à djinn, c'est-à-dire que le rythme, le mouvement de cette chevelure est spécifique à chaque djinn, à chaque génie, et on le voit dans la chevelure, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, le djinn devient cette chevelure.
Il y a des frères et mes sœurs qui ne croient pas ça, qui n'aiment pas ça.
Oui.
Tu comprends?
Pourquoi?
Ils disent, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu danses à qui? Tu demandes à qui? Je dis, moi, comme je danse, je sens bien, mais toujours, je demande à Allah. Je danse pour amuser moi, et en même temps, je demande toujours à Allah.
La mosquée est là-bas, nous, on a un local musicien. On produit ce que nos ancêtres nous ont donné en tant que tradition de Gnawa. Donc on n'a rien à voir avec la mosquée qui vient nous dire ouais, est-ce que ce que vous faites n'est pas bien ou quoi. On fait quelque chose, on donne juste une richesse aux gens qui ne la connaissent pas. Mm-hmm. C'est pas pour ça qu'on va pas me voir à la mosquée. Moi je vais à la mosquée, je vais prier, les gars ils vont prier, tout ce qui s'ensuit. On n'a pas un œil sur eux, ils n'ont pas un œil sur nous.
Pour le wahhabisme saoudien, l'utilisation d'instruments de musique est interdit. On a le beau leur dire que c'est une nadawood, c'est-à-dire David, le prophète David accompagnait ses chants avec une lyre, oui, c'est ça. Oui. Néanmoins, ils vont considérer que tout ça, c'est des abominations païennes, quoi, hein, que d'utiliser des instruments de musique.
Bon. Donc les intégrés n'étaient pas du tout d'accord avec cet esprit. Parce que c'est l'esprit, justement, qu'on garde en Kabylie, qu'on garde dans tous les pays berbères, cet esprit-là de la séparation, de ne pas faire intervenir la religion dans la vie, je dirais, la vie spirituelle de la société. Et ça, c'est très important. Et Et les intégristes étaient, même une fois, un moment, ils avaient incendié le lieu. Et mon père, il était alors là. Pour lui, les intégristes, il disait que... On parlait du diable, on a entendu parler des diables, mais maintenant on les voit.
Alors que lui était très religieux.
Ah oui, très religieux.
Les génies, ça n'a rien à voir avec la religion, parce que la religion est venue trouver toutes ces choses-là. Parce qu'avant que la religion vienne, il y avait déjà ce genre de trucs. Ils ont récupéré certaines parties.
Les djinns existent depuis que le monde existe. Mais la religion a récupéré ça. On a essayé, surtout les arabophones, on a essayé d'implanter des mots en arabe et Mohammed, et le prophète, et Allah, etc. dedans, mais avant on disait autre chose.
Il faut voir ces genres de trans qu'on fait, par exemple chez nous, les doigts, où le malade, il est couché, il ne peut pas se lever. Et à travers la chanson ou à travers la musique, on le met en trans. Et puis ça permet de le guérir. Moi, j'ai trouvé ça tellement fabuleux que aujourd'hui, je n'ai pas envie que nos traditions tombent comme ça, parce que c'est des choses, c'est tellement riche. Mais si on se met dedans, peut-être ça va essayer d'aller un peu plus loin, parce que le monde aujourd'hui, tout ce que tu fais, ça peut nourrir. Ça peut soigner beaucoup de choses. C'est comme il y a des maladies aujourd'hui qu'on dit, il n'y a pas de médicaments pour ça. Moi, je crois que c'est faux.
Nous organisons une fête qui s'appelle la fête de Chabana. Donc Chabana, c'est le mois qui précède le Ramadan. Et ça, c'est un mois sacré, donc pour clôturer l'année, les Gnawa clôturent l'année. Et ça, nous organisons ça une fois par an ici à Molenbeek. Et cette année, ça va être la quatrième fois, où là, on rassemble justement toutes les nationalités et tous les gens qui aiment bien ce style de musique, c'est-à-dire les Gnawa, ils viennent à ce jour-là pour un peu se vider, se défouler. Ceux qui tombent en transe viennent tomber en transe ce jour-là. En fait, c'est pas... Quand on parle des lilas, on n'est pas des guérisseurs, on n'est pas des médecins, on n'est pas Donc, nous, quand on fait une lila, par exemple, comme le style Chabana qu'on fait le 2 novembre, les gens, quand ils viennent, c'est n'importe quelle nationalité, probablement, ils sont les bienvenus. Et quand les gens, ils sont en transe, on ne sait pas à l'avance qu'ils sont malades. Les gens, ils sont invités, on ne sait pas qui est là, on ne sait pas qui est malade, qui n'est pas malade. Donc les gens commencent à tomber en transe à partir du moment où ils ont cette envie que ça vient. Et quand ça vient, ils sont partis, parce qu'ils peuvent rester 2-3 heures assis sans rien faire. Mais quand le déclic est là, ils sont partis. Leur maladie peut-être dit que c'est sur ce morceau-là qu'il faut danser, et puis ils dansent. Le maître, quand il est assis, il joue, il ne sait pas que la personne est malade. Elle est assise, elle est malade. Donc, mais il y a des gens à qui on connaît, qui sont malades et tout, qui demandent les services. Mais je veux dire, quand ils demandent les services, c'est pas, comment dire, on n'a pas une personne spécialisée là-dedans qui est assise au bureau et puis les gens viennent le voir ou quoi. Non, on vient nous voir pour organiser une lila, par exemple. Ça, oui. Ils ont mis une personne qui est malade et qu'elle sent qu'elle a besoin d'une lila, elle vient ici. Elle demande après le maître et elle lui dit voilà, tel jour, il faudra venir chez moi à la maison avec la troupe et me faire une lila. Et voilà.
Alors, ça arrive souvent
Avant le Ramadan, oui.
يا والعاره نفقي مارو الوحوش عرب فريز عرب 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 سيدي يا تعي بالله تمهروش تاني بالله يا هروج ومروج تمهروش هروج ومروج يا والعرب فريز تمهروش عرب يا اكتب لي نبرا تمهروش.
Quand on rentre en transe, est-ce qu'il y a des niveaux différents ou bien est-ce qu'on va toujours jusqu'au bout, jusqu'à tomber?
Ça dépend de la personne qui tombe en transe. Si elle a vraiment envie d'aller jusqu'au bout et qu'elle a besoin, eh ben elle ira jusqu'au bout. S'il faut qu'il joue pendant une heure ou deux, il jouera pendant une heure ou deux pour qu'elle tombe.
Et c'est quelque chose que celui qui passe en transe peut contrôler ou bien
il contrôle? Non, il ne contrôle pas normalement.
C'est pas lui qui contrôle. Non.
Et que les gens qui sont en extase, qui sont en transe et qui sont partis, bah, quand ils ont fini, ils reviennent à eux-mêmes et puis c'est fini, quoi.
Quand on voit les gens parler avec plusieurs voix, quand on voit les gens en transe, etc., bon, c'est clair qu'il ne faut pas du cinéma. Hein. D'ailleurs que s'ils faisaient du cinéma, ce serait d'excellents acteurs et qu'ils seraient au top 10 des acteurs de Hollywood. Et que donc, une fois qu'on est dans le système, on s'aperçoit tout à fait clairement que ce n'est pas une question de croyance, que l'habitude occidentale de dire « ça marche parce qu'on y croit hein, », ça ne veut rien dire. Cette manière de parler là, « ça marche parce qu'ils y croient hein, », c'est juste pour moi la manière dont les modernes se donnent l'impression de comprendre ce qu'ils ne comprennent pas. Quoi, hein. Comme quand un médecin voit qu'un malade a guéri avec autre chose que les médicaments qu'il lui avait prescrits, il dit « bah c'est l'effet placebo ». Où il est allé voir un guérisseur, etc., le médecin va dire que c'est l'effet placebo. Il ne sait pas ce que c'est l'effet placebo, il sait juste que ça existe, que c'est mesuré par les tests en double aveugle, hein, mais qu'est-ce que c'est ? Méfions-nous de la tendance que les modernes ont de se donner l'illusion de comprendre ce qu'ils ne comprennent en réalité pas. Hein. Et c'est vrai que la notion de croyance est vraiment centrale dans ces façons de faire des modernes, quoi, hein, parce que eux ils ont des savoirs alors que les autres ils ont des croyances.
خاتمها رسول الله الله بابا الله سيدي الولي يا مولانا طيب لي بحب الله لا تلبس الدربلة دربلة ولي الله لا يلبسها من ولا الله بابا الله سيدي الولي يا مولانا الشافي ويا العافي يا الباري تعالى يدخل وسط الخافي حرمت زين الحنا الله بابا الله سيدي الولي يا مولاي اشرف مولاي حمد الولي يا مولاي حمد.
Ce qu'il faut accepter, c'est l'idée qu'on n'a pas une petite âme, une petite, un psychisme plus exactement, qui est une espèce de bulle fermée, qui est notre belle intériorité. Et il faut accepter qu'on est des carrefours, quoi, qu'on est habité par plein de forces. Hein, donc il faut se débarrasser de l'idée que... de la psychologie. En fait, ce qu'il faut détruire, hein, le principal obstacle à ce genre de choses, c'est la psychologie. La psychologie qui ramène tout dans l'âme, quoi, dans la psyché, dans l'esprit, tout à l'intérieur. Hein. Nous, en réalité, et les cultures traditionnelles le savent bien, l'extérieur est à l'intérieur. Il y a moyen de travailler, d'agir sur ces forces.
راكب على النقشة ورد عقلي وشا الله بابا الله سيدي.
Dieu, dans la tradition chez nous, Dieu il existe, parce que dans la tradition aussi de tout le monde, Dieu il existe. Mais personne ne l'a vu. Moi je ne l'ai pas vu, mais tout le temps on en parle.
Merci à Olivier Rallet de m'avoir servi de guide chez les Bouchichi et les Hamacha, à Mohamed Saïdi de l'association Gnawa Oulad Bambara à Molenbeek. Merci à Abdelli, à Mani Sanou et à Rachid Jazouli. Cette émission a été conçue et réalisée par Thierry Van Roy avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la communauté française de Belgique.